Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte sans agressivité les rouages de l'économie mondiale. Au cours des derniers mois, une confrontation inédite s'est produite en Chine. Le choc a opposé l'un des hommes les plus riches du pays, Jack Ma, fondateur d'Alibaba, au président Xi Jinping. Apparemment, c'est l'homme d'affaires, modèle de toute une génération d'entrepreneurs chinois, qui a mordu la poussière, il a disparu pendant 3 mois, et l'introduction en bourse qu'il projetait, suspendue, sine die. Plus dramatique encore, un autre grand patron chinois vient d'être exécuté. Lai Xiaomin avait été condamné à mort au début du mois de janvier pour corruption. On l'accusait d'avoir touché 215 millions d'euros de pots de vin. Que signifient ces événements? Le pouvoir politique chinois commence-t-il à craindre la puissance des hommes d'affaires qui font la richesse du pays? Le capitalisme chinois est-il en crise? Malgré le regain de croissance du pays, des faiblesses se font-elles jour? Voilà quelques-unes des questions que nous allons poser aux deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Marie-Françoise Renard.
Bonjour.
Marie-Françoise Renard, vous êtes professeure d'économie à l'université Clermont-Auvergne, vous nous parlez donc de Clermont-Ferrand, vous dirigez l'Institut de recherche sur l'économie chinoise, l'IDREC, au sein du CERDI, un des grands centres universitaires français de recherche sur le développement. Dernière parution, un livre intitulé « L'économie de la Chine », un titre sobre aux éditions La Découverte, et ce livre est paru en 2018. Avec vous dans cette émission, Jean-François Dufour, bonjour.
Bonjour.
Jean-François Dufour, vous êtes le directeur de la société de conseil DCA Chine Analyse. Vous éditez la lettre d'information The China Industrial Monitor. Votre spécialité, ce sont les entreprises chinoises. Vous avez publié un livre qui s'appelle China Corp 2025, dans les coulisses du capitalisme à la chinoise. C'est chez Maxima 2019. J'ajoute qu'on peut lire de temps en temps vos tribunes dans le journal Le Monde. Au cours de cette émission, des reportages, bien sûr, de nos correspondants présents et passés en Chine. Nous retrouverons Stéphane Lagarde et Heike Schmidt. Commençons cette émission par un événement qui a ébranlé la planète financière chinoise. Le 3 novembre dernier, la société financière Ant voit son introduction en bourse reportée sine die. Alors pourquoi est-ce un événement, Marie-Françoise Renard ?
C'est un événement, bien sûr, mais en même temps, c'est la suite logique de la politique qui est suivie depuis la prise de pouvoir de Xi Jinping. Le message, c'est que ni les richesses, ni les réseaux, ni la notoriété ne protègent quiconque critique le Parti communiste. Et on sait que cette question du poids du Parti communiste est très importante dans la politique chinoise. Il y a des interrogations de la part du gouvernement. Et donc, cette mesure, elle est plus importante que ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, mais ça n'est pas complètement nouveau non plus.
Vous dites quiconque critique le Parti communiste chinois, qu'est-ce que les critiques contre le pouvoir ont à voir avec cette annulation d'introduction en bourse?
Alors, cela a à voir d'abord avec la personnalité de Jack Ma, qui était un des propriétaires de l'entreprise, d'une part, et d'autre part avec le fait que les grandes entreprises qui possèdent, comme celle-ci, une masse de données privées sur les consommateurs est extrêmement précieuse pour le gouvernement, et il n'est pas question que le gouvernement laisse aux mains d'entreprises privées ou de personnes privées autant d'informations. Donc c'est une illustration supplémentaire, c'est pour ça que je dis que c'est quand même dans la continuité, de la mainmise du gouvernement sur le secteur privé.
Jean-François Dufour, cette entreprise, Ant, qu'est-ce que c'est ?
Alors effectivement, la question c'est qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça aurait pu être, et je pense que tout le déclencheur de l'affaire en fait est là. C'est-à-dire que je pense que ce qui est très important dans cette histoire, ce n'est pas tellement en fait la confrontation des autorités chinoises avec le privé, parce que ça en fait le privé et l'innovation c'est encouragé par le régime tant que ça peut le servir. Le problème c'est le moment où ces entreprises privées puissantes sortent du cadre stratégique qui leur a été fixé. Et en fait le déclencheur de l'affaire Jack Ma, c'est très précisément un discours que Jack Ma a tenu le 24 octobre 2020 à Shanghai, dans lequel, en fait, il a suggéré, à une semaine de l'introduction en bourse de Ant Financial, qu'il pourrait changer les règles du jeu du système financier en Chine. Et ça, c'était le point, en fait, de non-retour, ce qui a provoqué la colère des autorités chinoises.
Soyez plus précis, qu'est-ce qu'il a dit exactement, alors, en ce mois d'octobre 2020, Jack Ma, le fondateur d'Alibaba?
Ce qu'il a dit essentiellement, c'était que les autorités de régulation bancaire chinoise étaient trop axées sur la prévention et la précaution et en fait entravaient l'innovation. Et il a employé une formule qui a été beaucoup reprise. Il a accusé les banques chinoises d'être des prêteurs sur gage, c'est-à-dire de ne prêter qu'à des gens qui apportaient des garanties. Ce qui d'ailleurs, de manière assez amusante, malgré l'intelligence du personnage, témoigne d'une petite erreur de perspective, parce qu'en fait les banques chinoises ne sont pas tant des prêteurs sur gage que des prêteurs sur ordre, c'est-à-dire sur ordre du Parti communiste chinois. Et ça a été ça vraiment le déclencheur. À un moment où les autorités chinoises sont inquiètes de l'évolution à cause du contexte de l'après-crise du Covid-19, le fait de remettre en cause ce fonctionnement d'un élément essentiel du modèle chinois, ça a été l'étape de trop qui a amené les sanctions contre Jack Ma.
Alors on va planter le décor, peut-être Marie-Françoise Renard. Jack Ma, qui est-ce ?
Jack Ma, c'est un personnage qui ne vient pas d'une famille aisée ou bien placée politiquement. C'est quelqu'un qui a fait une licence d'anglais, qui a été enseignant, puis interprète, et qui, lors de l'accompagnement d'entreprises aux États-Unis, a vu ce qu'était Internet et la chance que pouvait être Internet, et il a décidé qu'il imposerait, enfin, qu'il créerait Internet en Chine. Et je rappelle qu'en 2005, il a été nommé jeune dirigeant global par le Forum économique mondial. Et donc, c'est quelqu'un qui a réussi en créant ses sites Internet, en créant Alibaba, puis Taobao, AliExpress, etc., à créer une sorte d'empire autour d'Internet, autour des ventes en ligne, en partant de rien, pourrait-on dire. Donc c'est un exemple de réussite qui a été beaucoup vanté par le gouvernement chinois, et c'est quelqu'un qui a été qui a eu des relations jusqu'à ces derniers temps, qui a eu des relations relativement bonnes avec le gouvernement, même s'il était toujours sous contrôle. Et je rappelle aussi qu'en 2018, il a été nommé vice-président de la fédération pour soutenir les valeurs centrales du socialisme chinois. Donc au fur et à mesure que les positions se durcissent, il a été sur le devant de la scène, mais c'est quelqu'un qui a réussi, qui est un exemple de réussite de ce qu'on peut faire en Chine, en ayant l'idée d'imiter ce qui s'était fait aux États-Unis et en voyant l'avenir que cela pourrait avoir. Et on peut dire qu'il a pratiquement dépassé son modèle, puisque les ventes en ligne sont beaucoup plus importantes maintenant en Chine qu'elles ne le sont aux États-Unis.
Alors, Jean-François Dufour, précisément, quelle est la taille de l'empire qu'a construit Jack Ma ?
Alors, elle est considérable. De toute évidence, effectivement, comme vient de le rappeler Marie-Françoise, c'est quelqu'un qui a obtenu un succès absolument exceptionnel, donc avec un rôle leader dans le e-commerce. Et Alibaba était justement sur le point de passer à une autre dimension. Alors, sur deux aspects. D'abord, dans la logistique, on sait que le groupe, depuis un certain temps, envisage de créer sa propre compagnie aérienne, sur le modèle, par exemple, de FedEx aux États-Unis. Et l'aspect financier était le deuxième volet, encore plus important. Et donc, ce qui renvoie à l'importance de l'événement que vous évoquiez tout à l'heure, la suspension sine die de la cotation de Ant Financial, c'est vraiment un événement parce que c'était potentiellement la plus grosse introduction en bourse de l'histoire au niveau mondial, puisque l'entreprise était susceptible de lever entre 35 et 40 milliards de dollars. Donc, c'était vraiment déjà un groupe très important et qui était susceptible de le devenir encore plus.
Marie-Françoise Renard, Jack Ma a disparu pendant 3 mois. Une éclipse, on l'a revue récemment. Cette éclipse, qu'est-ce qu'elle veut dire sur le plan du rapport de force entre la politique et l'économie en Chine ?
Alors, elle veut dire, ce que là encore on sait depuis pas mal de temps, qu'il n'est pas question de s'éloigner, de s'émanciper du Parti communiste. Le Parti communiste régule l'économie, alors de façon très différente selon les secteurs, et même au sein d'un même secteur, de façon différente selon l'organisation du secteur, mais il y a toujours un représentant du Parti communiste qui contrôle ce qui est fait, de façon à ce que l'entreprise reste dans la la logique du parti. Et Jack Ma a été pendant longtemps conforme aux souhaits du gouvernement. Il aidait les PME à se développer, il soutenait la demande, il a permis de désengorger le système de santé avec des pharmacies en ligne, des plateformes, etc. Et donc, tant qu'il est resté dans la ligne du Parti communiste, très bien. On lui a même demandé de rappeler que finalement lui aussi était membre du Parti communiste. Comme cela a été rappelé tout à l'heure, à partir du moment où il a émis des critiques sur le marché financier, sur le fonctionnement du marché financier, c'était trop. Il a dépassé la ligne et donc le Parti communiste rappelle que dans ce cas-là, eh bien, on va utiliser les vieilles méthodes. Je rappelle que déjà entre 2015 et 2017, il y avait eu une vague de disparition de milliardaires. Il y avait une douzaine de milliardaires qui avaient disparu parce que ils avaient aidé des dissidents, parce qu'ils avaient créé des fondations pour aider les plus démunis ou les gens qui étaient susceptibles d'avoir été victimes de corruption de la part des riches gouverneurs locaux, etc., etc. Donc ça, c'est une pratique que l'on voit se développer depuis la prise de pouvoir de Xi Jinping et qui rappelle qu'en dernier ressort, c'est le Parti communiste qui décide de ce qui doit être fait. On sait bien depuis longtemps que à la tête de chaque institution, il y a un directeur, par exemple, pour prendre un domaine que je connais dans les universités, il y a un président d'université et il y a le secrétaire du Parti communiste. Le président d'université, il gère les affaires courantes et le secrétaire du Parti communiste définit la politique. Alors, au fil des années, des premiers ministres, etc., il y avait eu un peu, on pourrait dire que les liens s'étaient parfois un peu distendus. Le Parti communiste était parfois un peu moins autoritaire sur certains sujets. Et là, il semblerait que la prise... Alors, on est sûr que depuis que Xi Jinping est au pouvoir, l'autorité est beaucoup plus importante. Et il semblerait que Xi Jinping ait craint sans doute que le Parti communiste ne soit plus aussi autoritaire et aussi reconnu par la population. Donc, si quelqu'un sort du rang, eh bien on va lui rappeler qu'il doit rester dans le rang et donc il disparaît pendant quelque temps.
Vous disiez tout à l'heure que dans les années 2015-2017, il y avait des milliardaires qui avaient disparu. Ils ont disparu définitivement ou on les a revus ?
Non, on les a revus, ils n'ont pas disparu définitivement. Certains ont disparu peu de temps, dont d'autres ont eu 20 ans de prison.
Qu'ils font etc. effectivement ?
Oui, bien sûr. Donc, si vous voulez, c'est une amplification du contrôle du Parti communiste sur le secteur privé. Et sa présence est renforcée dans les entreprises. Il faut que les gens montrent leur loyauté et leur respect envers le parti. D'ailleurs, en septembre dernier, le gouvernement a présenté une directive destinée à mieux contrôler le secteur privé, donc septembre 2020, qui a été envoyée à tous les responsables de façon à ce qu'on puisse faire descendre et rappeler à chacun qu'il faut mieux contrôler les entreprises privées. Alors, comme cela a été dit un instant par Jean-François, bien sûr, le gouvernement incite au développement du secteur privé, mais il est sous contrôle.
Alors le développement du secteur privé, il se fait ou il se fait depuis plusieurs années à l'ombre, peut-on dire, du groupe Alibaba, puisque c'est une incitation pour les PME, pour les petits entrepreneurs à se développer, à lancer leurs entreprises. Écoutez cet extrait d'un long reportage que Heike Schmidt, alors correspondante de RFI à Pékin, avait consacré aux émules de Jack Ma. C'était en 2015, il y a presque 6 ans maintenant.
Dans un hôtel 4 étoiles de Pékin, plusieurs centaines d'entrepreneurs écoutent religieusement les conseils de Lao Bing, président d'une association qui regroupe les meilleurs vendeurs de sites en ligne.
Eh bien, j'étais tout seul avec mon ordinateur. J'ai travaillé chez moi dans une maison que je louais. Je n'avais rien. Je ne pouvais donc pas me payer un entrepôt. Il fallait écouler la marchandise rapidement. J'avais zéro stock. L'idéal, c'est d'arriver en tête des listes de vente sur le site. Si vous n'avez pas de capital de démarrage conséquent, ça ne sert à rien d'être jaloux des autres. N'essayez pas de voir trop grand. Étant trop gourmand, on risque de mourir.
Lao Bing, le vieux soldat, comme il se fait appeler, connaît tous les secrets du commerce électronique. Ses auditeurs n'en perdent pas une miette. L'un d'eux, Zhang Xiaolong, 42 ans, vend de la porcelaine en ligne et fait plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires par an.
Le e-commerce change très vite. Même le patron d'Alibaba ne peut pas prévoir son avenir. Ce qui compte, c'est le bon produit, une bonne équipe et une bonne stratégie. D'ailleurs, il vaut mieux ne pas se battre seul. Il Il faut qu'on se regroupe pour partager nos connaissances.
Quel talent faut-il avoir pour faire fortune dans le commerce électronique en Chine ?
Ce n'est pas le talent qui compte, mais la mentalité. L'esprit d'équipe et la volonté d'apprendre sans cesse sont essentiels. Et puis, il faut y croire, on peut partir de zéro. Au fait, la majorité des entrepreneurs sont partis de zéro. Dans le commerce en ligne, on trouve rarement les fils et filles de familles fortunées.
Partir de zéro et amasser une fortune rapidement comme Jack Ma, le fondateur d'Alibaba. C'est le rêve de tous ici. Monsieur Wang et Li Tian, 28 ans, deux futurs commerçants en ligne.
J'ai une petite usine. Je pense ouvrir un magasin en ligne. Je viens ici pour apprendre le savoir-faire. Mon domaine, c'est l'emballage.
Je pense ouvrir un magasin de vêtements féminins en ligne. J'ai appris beaucoup de choses grâce à cette conférence.
Alibaba est un écosystème. That helping small business to grow.
Leur idole, Jack Ma, le roi de la vente en ligne. Il y a 15 ans, ce professeur d'anglais a fondé le site Alibaba avec une bande de copains. Avec près de 23 milliards d'euros, ce Chinois de 50 ans est aujourd'hui l'homme le plus riche de toute l'Asie. L'admiration des Chinois pour cet homme frêle au petit visage carré frôle la vénération. Et pour marcher sur les traces de ce visionnaire devenu milliardaire, il faut découvrir les séminaires de Lao Bing. C'est ici que les jeunes talents peuvent apprendre les clés du métier.
Je suis président de l'association des élites des e-commerçants. Tous les membres de l'association sont des commerçants en ligne. Comme moi, j'ai 20 magasins. L'association, je ne l'ai pas fondée pour gagner de l'argent. Ici, on partage notre savoir-faire et on s'entraide. Prenez le président de notre club de Guangdong. Il a perdu de l'argent tous les mois avant de me rencontrer. Et grâce à mes conseils, il gagne maintenant quelques centaines de milliers de yuan par mois. C'est la force de la solidarité. Moi aussi, j'ai dû apprendre le métier. Notre club aide les entrepreneurs à augmenter rapidement leur chiffre d'affaires. Mais à long terme, ils ont besoin d'apprendre le savoir-faire, systématiquement, surtout les petits entrepreneurs.
Alors, c'était donc un reportage de Heike Schmidt en 2015 à Pékin auprès des petits entrepreneurs ou des aspirants entrepreneurs chinois. On parle là de vénération pour Jack Ma. Est-ce que vous croyez, Marie-Françoise Renard, cette vénération, elle est toujours là pour Jack Ma, malgré les événements des derniers mois?
Alors, c'est très difficile à savoir, mais je pense que oui, parce que ce développement du commerce en ligne a été extrêmement populaire, est extrêmement populaire en Chine, est extrêmement utilisé, et donc les Chinois, qui ont quand même un goût certain pour la consommation, et la consommation de plus en plus importante, je pense que les Chinois apprécient beaucoup ça. Ils ont beaucoup apprécié, comme cela vient d'être rappelé, la réussite personnelle de Jack Ma, qui laisse entendre que chacun pourrait faire ça, puisqu'il est parti, comme on disait, de rien, que c'était quelqu'un de modeste. Et donc, je pense que oui, cette admiration pour Jack Ma est maintenue, existe toujours.
C'était Côte d'ici, Côte d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de la Chine, de Jack Ma contre Xi Jinping avec deux invités, Jean-François Dufour, qui est économiste, consultant à la tête de DCA Chine Analyse, et Marie-Françoise Renard, qui est professeure d'économie à l'université Clermont-Auvergne et directrice du Centre de recherche sur l'économie de la Chine au CERDI. Jean-François Dufour, vous, ces petits entrepreneurs, ces aspirants entrepreneurs, vous les voyez toujours pulluler dans le regard que vous portez sur l'économie chinoise. Ils sont toujours là, en train d'essayer de s'enrichir.
Oui, effectivement, ils restent une composante, ils le resteront, hein, absolument majeure de l'économie chinoise. Et pour revenir sur la question de Jack Ma et la question que vous posiez juste avant de sa popularité, est-ce qu'elle est toujours réelle? Je pense que oui, et que c'est une des explications pour lesquelles son retour au bout de 3 mois se fait sans sanction. C'est-à-dire que Jack Ma est une véritable légende de l'entrepreneuriat en Chine et par-delà la Chine. Et donc, du coup, il aurait été trop risqué de le sanctionner lourdement. rapidement en sortant une affaire, comme on peut toujours en trouver en Chine à cause du caractère particulier de l'économie. Et c'est ce qui explique qu'il y a eu très certainement une mise en garde qui a été très bien comprise. Il y a eu la sanction de la suspension de la cotation de Ant Financial. Mais par contre, Jack Ma, au jour d'aujourd'hui, s'en sort beaucoup mieux que certains entrepreneurs privés qui avaient profil plus sulfureux ou que certains entrepreneurs publics dont les sanctions, pour l'exemple, notamment récemment dans le secteur financier, ont été beaucoup plus lourdes.
Est-ce que vous diriez, Jean-François Dufour, qu'il y a un syndicat des milliardaires ? Est-ce qu'il y a une organisation de ces gens-là, de ces grands patrons chinois ? Est-ce qu'il y a un MEDEF chinois ?
Non, il n'y a pas, pour une raison très simple, c'est que ce serait beaucoup trop risqué. Parce que là, vraiment, on revient à la problématique qu'on évoque depuis le début, de ce rapport entre le Parti communiste chinois et l'entrepreneuriat, et le fait de structurer quelque chose ouvertement qui serait indépendant de la stratégie économique nationale serait suicidaire. Si vous voulez, il faut être bien conscient que cette question de la constitution de pôle de pouvoir à base économique, le Parti communiste chinois la surveille à l'intérieur même du parti. C'est-à-dire qu'une des missions prioritaires de deux organismes très puissants, qui sont le département de l'organisation du parti et puis la commission centrale d'inspection de la discipline, c'est précisément de veiller à ce qu'il n'y ait pas la constitution de pôles de pouvoir économique. Et c'est d'autant plus le cas depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping que juste avant lui, on avait eu un cas très flagrant qui était ce qu'on appelait la forteresse pétrole, c'est-à-dire des gens qui étaient impliqués dans le secteur bancaire et dans le secteur pétrolier qui avait constitué une espèce de pôle de pouvoir au sein du parti. Et ça, le fait d'éviter que ça se répète, c'est une priorité du parti. Et donc, a fortiori, par rapport à des entrepreneurs privés, il est inenvisageable qu'une force de proposition qui serait clairement indépendante du parti se mette en place.
Vous partagez ce point de vue, Marie-Françoise Renard ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est très important de bien comprendre que, comme je l'ai dit au départ, comme on le répète depuis un moment, que le Parti communiste veut contrôler les entreprises pour que le pouvoir ne lui échappe pas. Donc chaque fois qu'un groupe risquerait d'être trop puissant, et sur différents domaines, soit parce que c'est un secteur stratégique, soit parce qu'il dispose de données elles-mêmes stratégiques, eh bien le Parti communiste s'opposera au développement de ce pouvoir et fera tout pour le faire exploser. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on l'a vu avec l'exemple de Ant, où on demande une restructuration pour que l'entreprise soit moins importante. Actuellement, il y a l'accent est mis par le gouvernement sur l'interdiction des monopoles, etc. C'est pas seulement parce que on dit finalement c'est pas efficace d'avoir des grands groupes, etc. Non, c'est une question de pouvoir. Il ne faut pas qu'il y ait des pôles de pouvoir trop importants à côté du Parti communiste.
Alors, Jean-François Dufour, sur cet aspect qu'évoque Marie-Françoise Renard, sur ces monopoles qui seraient finalement nuisibles à la croissance de l'économie chinoise, on a la même problématique aux États-Unis où de nombreux économistes commencent à dire que la constitution d'espèces d'oligopoles des géants de la tech nuit à la croissance et à la concurrence.
Alors effectivement, mais on va revenir sur la même question, si vous voulez, ce qui est très amusant parce qu'on voit comme les choses sont très liées, c'est qu'effectivement aujourd'hui Alibaba et plus seulement Ant Financial est l'objet d'enquêtes pour situation de monopole et qui rejoint donc ces questions que vous avez posées d'un pouvoir qui deviendrait trop important. Mais ce sont des enquêtes qui ont été engagées après l'affaire Ant Financial, c'est-à-dire qu'on revient vraiment sur la problématique tant que Jack Ma rester dans la ligne fixée par le Parti communiste, son influence et son pouvoir ne posaient pas de problème. Au contraire, c'était un moteur pour l'économie chinoise. Par contre, le jour où il a suggéré qu'il envisageait de changer les règles, là, les choses se sont mises en branle. Et aujourd'hui, donc, on a son groupe, mais également d'autres, qui sont l'objet d'enquêtes pour situation de monopole. Mais tout ça a découlé du fait qu'il soit sorti des clous. S'il n'y avait pas eu cette affaire de son discours fin octobre à Shanghai, il n'y aurait certainement pas eu d'enquête menée aujourd'hui.
Jean-François Dufour, vous disiez tout à l'heure au début de l'émission que Jack Ma avait mis en cause le système bancaire chinois, l'accusant de se comporter comme des prêteurs sur gage, et que vous utilisiez la formule « ces banques sont des prêteurs sur ordre ». Est-ce que cela veut dire que les banques chinoises ne sont que des rouages, des instruments de la volonté du Parti communiste ?
Ah oui, alors ça c'est très clairement le cas, et non seulement c'est le cas, mais c'est un élément absolument fondamental du fonctionnement du système chinois. Et si vous voulez, pour l'illustrer très précisément, j'évoquais tout à l'heure le fait que Jack Ma s'en sort beaucoup mieux que d'autres acteurs.
Oui, puis il faut rappeler qu'il est réapparu dans une vidéo.
Oui, tout à fait. Effectivement. Donc, je pense qu'entre-temps, il y a eu une petite explication avec les autorités compétentes et que les choses ont été clairement édictées quant aux limites à ne pas franchir. Mais si vous voulez, des membres du système financier traditionnel, eux, s'en sont tirés beaucoup moins bien. Parce que ce qui est frappant, si vous voulez, c'est que Jack Ma disparaît entre novembre et janvier. Et en novembre et décembre, vous avez eu deux condamnations particulièrement spectaculaires. C'est-à-dire que vous avez Lei Xiaomin, qui est l'ancien président de Huazhong Asset Management Corporation, qui est une des structures de défaisance qui régule le secteur bancaire chinois, a été condamné à mort pour corruption. C'est une première depuis de nombreuses années. Et quelques semaines après, Hu Huaibang, qui était l'ancien président de la China Development Bank, qui est une des plus puissantes banques chinoises, a lui été condamné à la perpétuité. Lui aussi pour une histoire de corruption, mais dans les deux cas, en fait, ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir mis en question l'équilibre et le fonctionnement du système financier. Et donc, si vous voulez, l'avertissement est très, très sévère à l'ensemble des acteurs. Et de toute façon, tous les dirigeants des grandes banques chinoises voient leur nomination validée ou invalidée par le département de l'organisation du Parti communiste chinois dont je parlais tout à l'heure. Donc, clairement, il y a une dépendance très directe.
Alors, Marie-Françoise Renard, je voudrais qu'on sorte un peu des clous traditionnels de cette émission qui est de dire la réalité, de dire la vérité, de dire ce qui se passe. Est-ce qu'on pourrait faire preuve un peu d'imagination et imaginer ce qu'a vécu Jack Ma pendant ces 3 mois? Est-ce qu'il y a eu une scène, une rencontre avec une autorité communiste importante? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'après tout ce que vous savez du Parti communiste, de l'économie chinoise, de ce grand pays? Qu'est-ce qui s'est passé précisément pendant ces 3 mois pour Jack Ma?
Oui, ce qu'on imagine, c'est un fort rappel à l'ordre, rappelant les règles et expliquant à Jack Ma qu'il est hors de question, pour sa sécurité même, qu'il continue à critiquer le Parti communiste.
C'est-à-dire qu'il a été convoqué à Pékin
Probablement convoqué à Pékin par les plus hautes autorités, parce que c'est quand même un personnage très important, et donc certainement par les plus hautes autorités pour lui faire comprendre que cette fois c'était fini, qu'il avait dépassé les bornes, et que on allait, s'il comprenait le message et qu'il s'engageait à respecter les règles du jeu, il pourrait ressortir libre. Encore une fois, comme cela a été répété, comme c'est un personnage très connu et très populaire, il n'était pas question de l'emprisonner, au moins dans un premier temps. Mais je pense que déjà on avait vu un peu l'évolution, parce que récemment, quand il avait dit qu'il était membre du Parti communiste, c'était en gros, ah bah oui, j'avais oublié de le dire. En fait, on a dû lui rappeler que ce serait bien qu'il dise qu'il était membre du Parti communiste. Et là, cette fois-ci, probablement il a été cadré en lui rappelant les lignes à ne pas franchir, en lui rappelant qu'il avait franchi ses lignes, et que donc s'il continuait, il pourrait lui arriver des problèmes. Déjà, il avait été sorti du circuit. Ensuite, l'entrée en bourse de son entreprise avait été interdite, reportée, va-t-on dire. Et donc, probablement, il a eu une reprise en main, on pourrait dire, assez sévère, en lui expliquant que sans doute cette fois-ci, il s'en sortirait pas trop mal, mais qu'il fallait vraiment qu'il fasse profil bas. Et d'ailleurs, pour son retour, il n'a parlé que des prix qui décernent tous les ans à la même période dans une ville du sud, à Sanya, dans une ville du sud de la Chine, des prix qu'il décerne aux enseignants méritants. Et donc le message, c'était bon, maintenant je vais parler de donner des prix aux enseignants, je vais parler de ce qui peut représenter des récompenses aux gens qui sont méritants, etc. Mais je ne parle plus d'économie.
Jean-François Dufour, quand Marie-Françoise Renard dit qu'il a rencontré les plus hautes autorités, vous imaginez qu'il y a eu un face-à-face avec Xi Jinping ?
Difficile et risqué de faire de la politique fiction. Ceci étant dit, à mon sens...
On fait une parenthèse.
Oui, bien sûr. Non, mais sérieusement, Xi Jinping, peut-être pas, parce qu'il n'est pas évident que le président du parti veuille bien accorder lui-même une entrevue à un personnage, même comme Jack Ma, si puissant soit-il. Par contre, l'interlocuteur qui me paraît le plus probable, au plus haut niveau, qu'a eu Jack Ma pendant cette période, c'est probablement Guo Shuqing, qui est un personnage qui est très peu connu à l'étranger, mais qui est en fait l'homme le plus fort de la finance chinoise. C'est le patron de la CBIRC, la China Banking and Insurance Regulatory Commission, donc l'autorité de régulation bancaire. Et je pense que là, il est très envisageable qu'il y ait eu à face-à-face une explication. Et ce qui est très intéressant, c'est la différence de profil entre les deux hommes. Parce que Guo Shuqing, donc aujourd'hui, est à la fois vice-gouverneur de la Banque centrale et président de l'autorité de régulation bancaire. C'est un ancien président d'une grande banque commerciale, mais publique chinoise, mais qui, entre-temps, a également été gouverneur du Shandong, c'est-à-dire la troisième province de Chine en termes de population et d'économie. Et si vous voulez, c'est le profil en fait qui est opposé à Jack Ma, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui connaît bien le système bancaire, qui a fait toute une partie de sa carrière dedans, mais qui aussi a été aux responsabilités politiques sur une province extrêmement importante, une province d'une centaine de millions d'habitants. Et je pense qu'on peut très bien imaginer un tête-à-tête directement entre les deux personnages, avec l'un rappelant à l'autre ce que c'est que la responsabilité politique et pourquoi il y a des limites à ne pas franchir.
Vous citiez cette petite phrase de Jack Ma qui comparait les banques chinoises à des prêteurs sur gage. Il y a une autre petite phrase qui a marqué les esprits ces derniers mois, c'était au mois de décembre, le bureau politique du Parti communiste chinois qui a dénoncé l'expansion désordonnée du capitalisme. Marie-Françoise Renard, c'est la réponse du berger à la bergère ?
Oui, alors ça, c'est une vision très traditionnelle du capitalisme en disant que finalement, le marché ne pouvait pas donner un ordre à l'économie, il ne pouvait pas avoir une organisation ordonnée de l'économie, et c'est le reproche qu'ont fait beaucoup les marxistes au système capitaliste. D'où l'idée de planifier et de donner un rôle important à l'État pour organiser l'économie. Et ça n'est rien d'autre que ce que dit aujourd'hui le Parti communiste. Il faut qu'on intervienne dans le secteur privé qui ne peut pas se réguler lui-même, qui serait désordonné, et donc on va mettre de l'ordre dans tout ça.
Alors je voudrais revenir encore sur les banques chinoises, Jean-François Dufour, parce qu'il me semble qu'on n'a pas encore aborder de front la question. Ces banques chinoises, est-ce qu'elles sont en bon état ? Est-ce que dénoncer, comme l'a fait Jack Ma, leur politique, c'est les mettre en danger financièrement parlant ?
Clairement, je pense que c'est le nœud du problème. Si vous voulez, il y a là une énorme différence entre la présentation officielle. Les banques chinoises sont en très bon état, elles sont gigantesques, elles engrangent des profits. Après, la réalité, c'est que des pratiques particulières font qu'en fait, on sait très bien que notamment le taux de ce qu'on appelle les prêts non performants, les PNF, c'est-à-dire les créances qui ne seront peut-être jamais recouvrées, est beaucoup plus important que ce qui est officiellement admis. Et là, j'en reviens au cas que j'évoquais tout à l'heure de Lei Xiaomin, qui était l'ancien président d'une des Asset Management Corporations. Ce sont d'énormes machines qui ont été créées en 1999, après la première grande crise financière qu'a connue la Chine, c'était la crise asiatique de 1998, et dont le but, en fait, est de racheter les créances douteuses des banques chinoises pour leur permettre de continuer à fonctionner. Et signe du fait que la situation est très tendue, et c'est ce qui explique la gravité de ce qu'a fait Jack Ma aux yeux des autorités chinoises, en 2020, pour la première fois depuis 1999, une cinquième structure de ce type, c'est-à-dire Galaxy Asset Management, a été créée. C'est-à-dire que les autorités chinoises sont parfaitement conscientes que pour gérer le contre-coup de la crise du Covid, elles vont avoir besoin d'être encore plus attentives sur la gestion de ces questions financières. Et donc, si vous voulez, vous avez une très grande précaution qui est prise, vous avez une cinquième structure de défaisance qui est mise en place, et à ce moment-là, Jack Ma arrive en suggérant qu'avec les nouveaux moyens dont il va disposé avec son introduction en bourse, il va remettre en cause le fonctionnement de tout ça. C'était le discours inacceptable pour les autorités chinoises, parce que par-delà les questions de pouvoir, c'est vraiment une question de stabilité en fait du modèle économique qui était potentiellement remise en cause.
Marie-Françoise Renard, sur cette question-là.
Oui, on peut rappeler que les banques chinoises sont les plus grandes banques du monde. C'est un système bancaire qui est extrêmement important, mais qui est également très fragile. Tout à l'heure, quand on a parlé de ce rôle des banques qui serait aux ordres, on sait que un des grands problèmes de l'économie chinoise aujourd'hui, c'est que les entreprises privées accèdent difficilement à des prêts. D'où toutes d'abord les créances douteuses, toute cette finance de l'ombre qui s'est développée, parce que les banques prêtent d'abord aux institutions publiques, elles ont la garantie de l'État, et puis elles ont quasiment l'ordre de le faire. Et donc, les reconversions, les réformes qui devraient être faites sont très importantes, et elles ont toujours été repoussées. Souvent été repoussé avec la crise de 2008. Le grand plan de stimulation de l'économie a permis de ne pas avoir une crise trop importante, mais a retardé les réformes. Et là, la crise sanitaire a également retardé des réformes structurelles. Donc, c'est un secteur qui est en difficulté. Le gouvernement est très conscient de ces difficultés. Et le problème, c'est que on crée des structures de défaisance, mais au dernier niveau, il faut bien essayer de régler ce problème de ces prêts non performants. Et effectivement, ils sont sans doute sous-estimés. On sait que la dette privée a beaucoup augmenté en Chine, la dette des gouvernements locaux a également augmenté, et que le gouvernement se trouve face à un dilemme qui est extrêmement difficile à régler. Comment maintenir un taux de croissance élevé et régler le problème de la dette? C'est presque antinomique.
Et c'est particulièrement criant maintenant, en pleine crise du Covid. C'est un problème encore plus aigu.
Chaque fois qu'il y a une politique publique qui entraîne de l'endettement, cela aggrave bien sûr le problème de la dette. On voit que en 2020, lors de cette crise sanitaire, le gouvernement n'a pas fait un grand plan de stimulation comme il avait fait en 2008. Il a pris des mesures qui ont été des mesures très ciblées, mais qui ont été coûteuses, notamment pour les gouvernements locaux. Or, les gouvernements locaux en Chine, ils ont de plus en plus de responsabilités. Ils jouent un rôle très important dans la politique économique, mais leurs moyens n'ont pas suivi. Donc, leur endettement s'est accru. Et la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a non seulement un endettement des gouvernements locaux, mais que cet endettement pénalise leur possibilité d'intervention dans l'économie, alors que celle-ci est très importante. Et donc, bien sûr, en facilitant les crédits, parce que la politique qui a été mise en place l'année dernière a été une politique qui a consisté à faciliter les crédits pour les entreprises les plus vulnérables, à retarder les paiements les remboursements de dettes, etc. Donc cela a accru l'endettement. Et donc évidemment, ça rend le problème encore plus aigu.
C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de la Chine, de son économie, de sa finance, des banques, de Jack Ma qui a disparu pendant 3 mois après des déclarations qui l'ont compromis aux yeux des autorités du Parti communiste chinois, de Xi Jinping. Tout cela avec deux invités qui connaissent parfaitement ce dossier. Marie-Françoise Renard, professeure à l'Université Clermont-Auvergne, et Jean-François Dufour, qui est consultant et qui dirige la société DCA Chine Analyse. On va repartir à Pékin, rejoindre notre correspondant Stéphane Lagarde. 3 mois de disparition cathodique et Jack Ma qui est réapparu il y a une semaine à l'occasion d'une remise de prix en visioconférence pour les enseignants des écoles rurales, on en parlait déjà tout à l'heure. Aux yeux de notre correspondant et au vu de ce qu'il peut recueillir comme information à Pékin, que nous dit cette disparition, réapparition à l'écran sur la Chine et son capitalisme rouge? C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Stéphane Lagarde.
Hello everybody. Today we are very happy that we have this opportunity to talk to Mr. Ma in person. Jack Ma is the owner of Alibaba.
La lumière et les applaudissements pour Jack Ma. Devant les étudiants de l'Université de Moscou, le fondateur d'Alibaba raconte une nouvelle fois l'incroyable succès d'une entreprise qui a démarré dans un modeste appartement de Hangzhou avant de devenir un empire de la vente en ligne, générant plus d'argent qu'Amazon. Et parmi les clés du succès, ne jamais abandonner.
Everybody should get used to fail.
Pour réussir, il faut accepter de perdre, disait il y a moins de 2 ans l'ancien professeur d'anglais devenu milliardaire. De la lumière à l'ombre, Ma Yun, Jack Ma, Papa Ma, même pour les internautes chinois, a-t-il de nouveau perdu? Comment interpréter cette disparition des écrans? Nous avons posé la question à un homme qui le connaît très bien, un ancien vice-président du groupe Alibaba, silhouette fine, les yeux qui brillent. Liang Chunxiao évoque le contexte de cet évanouissement.
Le développement des entreprises de l'Internet et des sociétés comme Alibaba est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Les services fournis par ces plateformes n'ont rien de comparable à ceux que proposaient les entreprises de l'ère industrielle. Les 10 entreprises les plus importantes sur le marché sont des entreprises Internet. Or, depuis 4 ans, non seulement en Chine mais partout dans le monde, aux États-Unis comme en Europe, nous voyons des conflits émerger entre les gouvernements et ces entreprises. Ce n'est pas une surprise et cela peut faire avancer la société.
Un conflit, disent sans le dire Liang Chunxia, pour les China Watchers, Jack Ma aurait franchi non pas la ligne rouge, couleur du bonheur en Chine, mais une ligne noire, en osant critiquer devant l'élite financière chinoise réunie à Shanghai en octobre dernier, les banques accusées de fonctionner comme des boutiques de prêts sur gage. Une accusation qui a touché l'amour-propre du régulateur financier. Les médias d'État ont commencé à critiquer Dr. Jack et Mr. Ma. Le Dr. Jack qui aide les instituteurs ruraux dans sa dernière vidéo et Mr. Ma qui a mis en place le 996, 9h à 21h, 6 jours sur 7 dans ses entreprises. Mais il y a surtout un problème de cadre. Le fondateur d'Alibaba ne répondrait pas aux critères de l'entrepreneuriat patriotique au service du parti cher au président chinois.
Nous sommes confrontés à de nouveaux défis et à des questions sur la manière dont ces grandes entreprises d'Internet peuvent coexister avec nos sociétés. Comment les pays peuvent adapter les politiques et la culture à cette ère digitale? À mesure qu'ils se développent, les géants du numérique sont censés assumer davantage de responsabilités et offrir davantage de services au public. Nous sommes dans une période de réflexion où les entreprises, les gouvernements et les peuples cherchent à coexister harmonieusement.
Retrouver l'harmonie, une période d'ajustement, d'autres analystes sont plus pessimistes et rappellent que des célébrités du cinéma, de l'université et des affaires ont disparu ces dernières années après avoir déplu au pouvoir. Le plus célèbre des Chinois derrière le président Xi Jinping a-t-il fini par faire de l'ombre à l'empereur? Fait-il aujourd'hui profil bas? Liang Chunxia dit ne pas être
inquiet. Il ne faut pas voir les choses en noir et blanc, il n'y a pas de vrai ni de faux dans ce genre d'affaires. Chaque parti doit prendre le temps d'explorer différentes voies pour devenir une meilleure entreprise, améliorer l'environnement social et améliorer le système politique. Non vraiment, rassurez-vous, de toute façon l'avenir est radieux.
Un avenir radieux, les choses finiront par s'arranger, affirme notre interlocuteur qui n'a jamais prononcé le nom de Jack Ma durant l'entretien.
Un reportage signé donc Stéphane Lagarde à Pékin, Marie-Françoise Renard, Jean-François Dufour. Beaucoup de choses dans ce que dit ce proche de Jack Ma, même s'il ne prononce pas son nom. L'avenir est radieux, il compare ce qui se passe en Chine avec ce qui se passe en Europe et aux États-Unis. On peut vraiment faire le parallèle? Ça n'est quand même pas la même problématique, Marie-Françoise Renard.
Bien sûr, non seulement c'est optimiste, mais je pense qu'on peut dire que c'est faux. Parce que ça, c'est le discours officiel qui essaie de normaliser ce qui se passe en Chine en disant, mais finalement, vous voyez bien, dans tous les pays, il y a des conflits, donc c'est normal qu'il y en ait chez nous. Alors, bien sûr, dans tous les pays, il y a des conflits. Dans le cas de la Chine, c'est quand même un peu différent. Et je ne pense pas qu'on puisse être optimiste sur l'avenir de Jack Ma, qui n'aura certainement pas l'opportunité de sortir à nouveau du rang et donc de tout simplement dire ce qu'il pense. Je crois que la différence avec ce qui se passe dans les démocraties, c'est que les oppositions sont des moments où les gens peuvent dire ce qu'ils pensent. Et là, on voit bien qu'en Chine, si quelqu'un dit ce qu'il pense, surtout si c'est vrai et si ça peut être dangereux, il est sorti du circuit. Donc, c'est une vision très optimiste des choses qu'on vient d'entendre.
Jean-François Dufour.
Oui, alors je pense que, si vous voulez, le reportage est très intéressant parce qu'il montre très clairement que la leçon a été bien comprise de la disparition de Jack Ma, sans qu'il soit besoin de trop appuyer, de prendre de mesures trop spectaculaires, puisque vous avez effectivement un de ses bras droits qui tient un discours très cadré sur le fait qu'il est normal de s'ajuster, de se comprendre mutuellement. Et puis, comme le soulignait Marie-Françoise, cet aspect très important, c'est qu'on a un discours qui devient beaucoup plus patriotique en suggérant immédiatement par rapport à un journaliste étranger, le fait qu'après tout, c'est comparable à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et donc la volonté absolument de ne pas faire ressortir ce qui serait une spécificité chinoise, en suggérant que finalement c'est partout pareil.
Alors ce qui attire l'attention dans le reportage de Stéphane Lagarde, c'est aussi ce rappel des horaires à rallonge des employés d'Alibaba.
Là, je pense qu'effectivement, on retombe sur la question du basculement qu'il y a eu. Tant que Jack Ma était érigé en exemple par le parti, ses rythmes de travail effrénés n'étaient pas, ne lui étaient pas reprochés. Au contraire, c'était un des éléments de la recette, hein, le travail acharné, la persévérance. À partir du moment où il tombe en disgrâce, ça se retourne contre lui. Donc là, c'est vraiment, si vous voulez, une manipulation du discours en fonction de ce qu'on veut démontrer.
Marie-Françoise Renard, est-ce que malgré tout, à la faveur ou à cause de cette pandémie, le système économico-politique chinois pourrait atteindre certaines de ses limites?
Oui, alors la difficulté aujourd'hui, c'est comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, c'est de surmonter les contradictions, parce que on voit bien que l'évolution du système économique nécessite un développement du marché intérieur et une montée en gamme en matière de technologie. Or, la Chine est confrontée à certains problèmes sévères, le problème démographique, on n'en parle pas tellement en ce moment, mais c'est un problème qui est très grave parce qu'il n'y a pas de renouvellement de la population.
C'est le vieillissement de la population.
Et donc il y a un vieillissement de la population puisque le taux de fécondité n'est pas suffisamment important pour que il y ait un taux de remplacement suffisant. Et on rejoint une des limites du système, c'est que la Chine n'est pas un État-providence. Donc les gens sont obligés d'épargner beaucoup, ils ont une faible retraite, ils ont une faible protection sociale, ils ont très peu d'allocations chômage. Et donc cela va à l'encontre du développement de la consommation. Et beaucoup également, un autre problème crucial, c'est le ralentissement des hausses de productivité. Et la Chine doit essayer d'améliorer la croissance de sa productivité, ce qui est très difficile dans un contexte où on a aussi retardé les réformes des entreprises d'État et donc où beaucoup d'entreprises d'État restent en surcapacité et restent inefficaces. Elles ne le sont pas toutes, mais certaines d'entre elles le restent. Et comme je
par
le disais
exemple,
tout à l'heure,
lesquelles
les réformes. Par exemple, dans l'industrie lourde, dans les aciéries, etc., où on constate encore des surcapacités, ce qui soutient la croissance d'une certaine façon, mais ce qui est inefficace. Et il y a un ralentissement de la hausse de productivité en Chine qui inquiète les autorités. Et on n'a pas réussi, dans le secteur des services, qui est maintenant le secteur dominant dans le PIB, à avoir les gains de productivité que l'on a eu dans l'industrie dans les années 90 et au début des années 2000.
Sur les limites de ce système économique et politique chinois, Jean-François Dufour, quelle est votre réflexion ?
Alors ma réflexion par rapport à cette question très très actuelle de la crise, c'est qu'effectivement elle pose deux problèmes majeurs aux autorités chinoises. Le premier, c'est qu'en fait effectivement le report incessant des réformes qu'a évoqué à plusieurs reprises Marie-Françoise, c'est une réalité mais qui en fait va à l'encontre des souhaits du gouvernement chinois, qui en fait aimerait améliorer l'efficacité de son modèle économique, mais qui n'y arrive pas parce que les crises qui se suivent, 98, 2008, 2020, l'obligent à recourir aux bonnes vieille méthode pour prendre des mesures contracycliques. Donc du coup, on a un mouvement de réforme qui est freiné malgré leur volonté. Et le deuxième aspect, c'est qu'on a une inquiétude bien réelle sur un risque d'accident financier et par-delà économique qui explique la nervosité particulière qui a amené à l'affaire Jack Ma qui nous a servi de point de départ pour cette émission.
Est-ce que tout cela, est-ce que cette affaire Jack Ma peut inquiéter, dissuader les investisseurs étrangers de venir en Chine ?
Honnêtement, je ne pense pas, dans la mesure où, si vous voulez, elle a plus de visibilité que des précédentes, mais ce n'est pas une première. On a eu toute une série d'affaires avec des personnages qui étaient moins visibles et moins prestigieux que Jack Ma. Mais si on reprend Wu Xiaohui, l'ancien président de l'assureur Anbang en 2018, si on reprend Jiayi Weting, l'ancien président de l'Eco en 2015, si on remonte encore des années auparavant, cette confrontation du Parti communiste chinois avec des entrepreneurs privés qui sortent du cadre stratégique, c'est quelque chose de récurrent. Avec Jack Ma, c'est plus visible, mais je pense que tous les gens qui font affaire avec la Chine étaient déjà au courant de cette réalité.
Merci Jean-François Dufour, merci Marie-Françoise Renard d'avoir accepté l'invitation de RFI. Cette émission est maintenant terminée, elle était réalisée par Guillaume Munier avec l'aide de Julien Maguarou. Vous pouvez nous réécouter, nous podcaster sur l'application Pure Radio de RFI sur votre smartphone, et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI. Alors on dit quoi? Avec